Chapitre 3 Verset 1 Citation de l'Écriture. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? Fin de citation. L'apôtre a montré qu'en retournant à la loi, les Galates mettaient de côté l'œuvre de Christ et rabaissaient la gloire de sa personne comme fils de Dieu. Agir ainsi était si peu naturel qu'il semblait qu'on les avait ensorcelés, car ils niaient pratiquement la vérité de la croix, le grand fait central de l'évangile qui leur avait été proclamé quand l'apôtre avait placé devant eux Christ crucifié. Par ailleurs, revenir à la loi mettait non seulement Christ de côté, mais ignorait aussi la présence de l'Esprit-Saint et revigorait la chair. Le diable est opposé à Christ. Le monde au Père, la chair à l'Esprit. Ainsi, dans les chapitres qui suivent, nous avons en permanence l'Esprit et la chair mis en opposition l'un à l'autre. Chapitre 3, verset 3, chapitre 4, verset 29, chapitre 5, verset 16 et 17, chapitre 6, verset 8. Pour démontrer la folie d'ignorer l'Esprit et de raviver la chair en retournant à la loi, l'apôtre, dans le reste de l'épître, insiste spécialement sur les bénédictions dans lesquelles l'Esprit nous conduit et sur la gravité du caractère de la chair et des maux auxquels elle nous expose. Il entame ce nouveau sujet en cherchant à atteindre la conscience de ses saints avec quatre questions pénétrantes en rapport avec l'Esprit-Saint. Versets 2 à 5 Citation de l'Écriture. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Êtes-vous si insensé? Ayant commencé par l'Esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Fin de citation. Premièrement, ils demandent sur quelle base ils avaient reçu ce grand don de l'Esprit. Était-ce sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Autrement dit, par des œuvres de loi ou par ce que la foi avait entendu? Il ne remet pas en question le fait qu'ils avaient reçu l'Esprit, mais il demande si l'Esprit avait été reçu à cause de ce qu'ils avaient fait, leurs œuvres, qui seraient alors des œuvres de loi. Ou était-ce tout simplement par la foi en Christ mort et ressuscité? L'Écriture montre clairement que celui qui est scellé de l'Esprit, c'est le pécheur qui croit en Christ, le croyant. Ainsi, l'apôtre, écrivant aux croyants à Éphèse, peut leur dire en parlant de Christ, « En qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse. » Éphésiens 1, verset 13. Deuxièmement, ayant commencé leur vie chrétienne dans la puissante action de l'Esprit-Saint, allaient-ils maintenant revenir à la loi, comme si par leurs propres efforts ils pouvaient marcher convenablement comme chrétiens? La loi s'applique à l'homme dans la chair. En retournant donc à la loi, non seulement ils ignoraient le Saint-Esprit, mais ils ravivaient la chair et cherchaient la perfection dans la chair et par la chair. Troisièmement, tout ce qu'ils avaient souffert pour l'amour de la vérité, était-ce tout en vain? La persécution qu'ils avaient endurée était venue principalement des Juifs qui, en cherchant à maintenir la loi, avaient crucifié Christ et résisté à l'Esprit. Si ces saints de Galatie retournaient à la loi, les Juifs n'auraient plus de sujet de dispute avec eux. La persécution avait été inutile et cesserait sûrement. Quatrièmement, il y avait eu des miracles de puissance divine parmi eux. Ces manifestations de puissance étaient-elles le résultat d'avoir gardé la loi ou étaient-elles le résultat de la foi en la puissance de Dieu? Versets 6 à 9 Citation de l'Écriture. Comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Fin de citation. La réponse à ces questions était simple. Toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues, dont le couronnement était le don de l'Esprit Saint, toutes les souffrances qu'ils avaient endurées et toute la manifestation de la puissance divine au milieu d'eux étaient le résultat de la réception de l'Évangile touchant Jésus et écouté par la foi. Un témoignage de la part de Dieu, reçu par la foi, a toujours été la seule base sur laquelle les âmes sont venues à la bénédiction de Dieu. Abraham est un exemple remarquable de quelqu'un qui, au temps de l'Ancien Testament, a reçu la bénédiction par la foi. De plus, l'histoire d'Abraham montre qu'avant le don de la loi, et donc tout à fait en dehors de la loi, Dieu bénissait l'homme sur le principe de la foi. Le cas d'Abraham est d'autant plus convaincant qu'il était, plus que tout autre, hautement estimé par les Juifs. Celui-là même que les défenseurs de la loi se vantaient d'avoir pour père, Jean 8, verset 39, avait été béni en dehors de la loi, sur la base de sa foi. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme étant une condition de justice devant Dieu. Il en résulte que ceux-là seuls qui sont bénis sur le principe de la foi sont les vrais fils d'Abraham. Tel est le témoignage de l'Écriture qui, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a anticipé l'Évangile lorsque la parole est venue à Abraham « En toi, toutes les nations seront bénies ». Ainsi, ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Versets 10 à 12. Citation de l'Écriture. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident parce que « le juste vivra de foi ». Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais « celui qui aura fait ces choses vivra par elles ». Fin de citation. Nous avons vu dans l'histoire d'Abraham que l'Ancien Testament anticipe clairement les bénédictions qui viendraient sur les nations sur le principe de la foi. Nous apprenons maintenant que l'Écriture est également explicite quant au témoignage que Dieu a rendu par Moïse lorsqu'il dit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Deutéronome 27, verset 26. Il est évident que personne n'a persévéré en faisant toutes les choses exigées par la loi. Le témoignage de Moïse ne peut donc que conduire à la conclusion que revenir à la loi, pour la bénédiction, c'est se placer sous la malédiction. On a dit « la loi exige, elle demande aux hommes de la garder, elle doit avoir l'obéissance, mais elle ne donne ni une nature qui désire la garder, ni la force pour le faire. » On a vu le témoignage rendu par Moïse, le législateur. Mais que disent les prophètes? Leur témoignage est tout aussi clair, car Habacuc déclare que « le juste vivra de foi ». Chapitre 2, verset 4. Or, il est évident que la loi n'est pas de la foi, car il est dit « celui qui aura fait ces choses vivra par elles ». Lévitique 18, verset 5. Versets 13 et 14. Citation de l'Écriture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Fin de citation. Par-dessus tout, Christ nous a rachetés de la malédiction en étant fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Deutéronome 21, verset 23. Christ a porté notre malédiction pour que nous recevions la bénédiction et la promesse de l'Esprit par la foi en Christ. Ainsi, revenir à la loi pour la bénédiction, c'est méconnaître l'exemple que l'Écriture nous donne en Abraham, c'est fermer les yeux sur le témoignage rendu par Moïse, le législateur, c'est ignorer le témoignage d'Habacuc, le prophète. Et, le plus grave de tout, c'est ne faire aucun cas de Christ. Versets 15 et 16. Citation de l'Écriture. Frères, je parle selon l'homme. Personne n'annule une alliance qui y est confirmée, même celle d'un homme, ni n'y ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences », comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence, qui est Christ. Fin de citation. Dans le reste du chapitre, nous apprenons la relation entre la loi et la promesse, et la véritable utilité de la loi. Il nous est rappelé que la promesse de la bénédiction pour les nations sur le principe de la foi a été faite à Abraham et à sa semence. L'apôtre cite les paroles de l'Éternel adressées à Abraham après avoir offert son fils Isaac et l'avoir, en figure, reçu d'entre les morts. Il prend soin de montrer que la semence dont parle l'Écriture est Christ, dont Isaac était un type lorsqu'il a été offert. Genèse 22, versets 17 et 18. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Or je dis ceci, que la loi, qui est survenue 430 ans après, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Fin de citation. Cette promesse faite à Abraham l'a été 430 ans avant que la loi ait été donnée. Quel que soit le but de la loi, il est évident qu'elle ne pouvait pas mettre de côté la promesse inconditionnelle de Dieu qui était antérieure. Or, si hérité de la bénédiction était par la loi, la promesse serait rendue sans effet. Cela est impossible, car Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Versets 19 et 20. Citation de l'Écriture. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Fin de citation. Étant donné que la bénédiction est assurée par la grâce souveraine de Dieu, qui a fait une promesse inconditionnelle, à quoi servait la loi? Elle est intervenue pour démontrer que l'homme est pécheur et que Dieu est un Dieu saint qui ne peut pas passer par-dessus les péchés. La loi prouve que si Dieu accorde la bénédiction en grâce souveraine, il ne le fait pas au détriment de la justice. Ainsi, la loi soulève la question de la justice, à la fois la justice des hommes et la justice de Dieu. Elle demande la justice de la part de l'homme en lui disant que son seul chemin par rapport à Dieu et ses semblables est d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa pensée et son prochain comme lui-même. Luc 10, verset 27. Mais qui a fait cela, sinon notre Seigneur Jésus-Christ? La loi démontre donc que nous sommes pécheurs. Ayant donné la preuve que nous n'avons aucune justice, la loi continue en prouvant que l'âme qui pêche doit mourir, et donc que la justice de Dieu exige le jugement du pécheur. La loi a été ajoutée pour démontrer que nous sommes transgresseurs, c'est-à-dire violateurs de commandements. Elle a été promulguée par des anges, qui ne révélaient pas directement Dieu dans toute la gloire de son amour et de sa grâce, bien qu'il faisait connaître sa majesté. En outre, la loi n'était pas comme la promesse qui dépendait directement de Dieu qui avait fait cette promesse. Elle a été donnée par un médiateur, ce qui suppose deux parties et qui implique que la bénédiction proposée dépend de la fidélité des deux parties dans l'exécution des conditions. Moïse, le médiateur, a fait connaître les termes de la loi selon laquelle la bénédiction dépendait de l'obéissance. Sur le champ, le peuple a accepté les termes en disant « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Inversement, la promesse faite à la semence, Christ, dépend entièrement de Dieu seul, et dans l'accomplissement de sa promesse, il agit entièrement de lui-même. Rappelons-nous qu'il n'est pas ici question de Christ comme le médiateur qui s'est donné en rançon pour tous. Il n'est question que de la promesse, et un médiateur n'a rien à dire à son sujet. Versets 21 et 22. Citation de l'Écriture. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car s'il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi. Mais l'Écriture a renfermé toute chose sous le péché, afin que la promesse, sur le principe de la foi en Jésus-Christ, fut donnée à ceux qui croient. Fin de citation. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Autrement dit, bien loin de là. La loi exigeait la justice, mais ne donnait pas la vie. Si elle avait donné la vie, il aurait été possible d'obéir à la loi, et la justice aurait été par la loi, et la bénédiction aurait été obtenue en dehors de toute promesse. Mais la loi convainc de péché et montre que l'homme ne peut pas obtenir la bénédiction par ses propres efforts, et elle démontre ainsi la nécessité de la promesse. Ainsi, tous sont renfermés sous le péché, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ soit donnée à ceux qui croient. Versets 23 à 26. Citation de l'Écriture. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Fin de citation. Avant que la foi vînt, c'est-à-dire le christianisme, les Juifs, pendant la période de la loi, étaient tenus à l'écart des nations, en vue d'être justifiés sur le principe de la foi. En ce sens, la loi a joué le rôle de précepteur pour les conduire à Christ. Mais le christianisme étant venu, ils ont été mis en relation avec Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Versets 27 à 29. Citation de l'Écriture. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Fin de citation. En outre, par le baptême, ils avaient participé à la profession de christianisme. Vrais croyants ou non, ils avaient, par le baptême, abandonné le terrain où l'on est juif ou gentil, esclave ou homme libre, et ils avaient embrassé la profession de christianisme où l'on est uni ensemble en tant que chrétien. Si donc ils étaient de Christ, ils étaient la semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. Notons ici que le mot « semence » est utilisé par allusion à Genèse 12, verset 3, où la semence se réfère à tous ceux qui croient.